Chapitre 7e. Louis Richard, ayant jeté les yeux sur la lettre qui se trouvait presque devant lui, et dont l'écriture lui était inconnue, la décacheta machinalement. Le vieillard, tout en continuant de se promener silencieusement dans la chambre, suivait son fils de l'œil. Soudain, il le vit pâlir, passer la main sur son front, comme pour s'assurer qu'il n'était pas dupe d'une illusion, puis relire avec une angoisse croissante cette lettre à laquelle il semblait ne pouvoir se décider à croire. Cette lettre, que le matin le père Richard, contrefaisant son écriture, avait paru recopier d'après la première dictée de Mariette, loin de reproduire les pensées de la jeune ouvrière, était ainsi conçue. « Monsieur Louis, je profite de votre absence pour vous faire part de ce que je n'aurais pas osé vous dire. Depuis plus de 2 mois, je remets à vous avouer cela, de peur de vous faire peut-être de la peine. Il faut renoncer à nos projets de mariage, monsieur Louis, et même à nous voir. Il m'est impossible de vous dire la cause de ce changement, mais croyez que ma résolution est bien prise. Si je ne vous en préviens qu'aujourd'hui, le 6 mai, monsieur Louis, le 6 mai, c'est que j'ai voulu bien réfléchir une dernière fois, et surtout en votre absence, avant de vous apprendre ma détermination. Adieu, monsieur Louis, ne cherchez pas à me revoir. Cela serait inutile et ne servirait qu'à me causer de grands chagrins. Si au contraire vous m'oubliez tout à fait, et si vous ne tâchez pas de vous rapprocher de moi, mon bonheur ainsi que celui de ma pauvre marraine est assuré. C'est donc au nom de notre bonheur à toutes deux et de notre tranquillité, monsieur Louis, que je vous supplie de ne plus me voir. Vous avez si bon cœur que vous ne voudrez pas me causer des peines qui ne vous serviraient à rien, car je vous le jure, tout est fini pour toujours entre nous deux. Vous n'essayerez pas, je l'espère, de vous la revenir malgré moi lorsque je vous déclare que je ne vous aime plus que de bonne amitié. Mariette Moreau. P.S. Au lieu de vous adresser cette lettre à Dreux, comme vous me l'aviez dit, je vous l'adresse à Paris, afin que vous la trouviez à votre retour. Augustine, qui, vous le savez, écrivait pour moi, étant à son pays, c'est une autre personne qui écrit. J'oubliais de vous dire que l'état de ma marraine est toujours le même. La lecture de cette lettre plonge Louis dans une stupeur accablante. L'ingénuité du style, les détails intimes, le rappel de la date du 6 mai, tout le devait persuader que ces lignes avaient été dictées par Mariette. Aussi, après s'être en vain demandé quelle pouvait être la cause de cette rupture aussi brusque qu'inattendue, la douleur, le dépit, la colère, l'amour-propre froissé agitèrent violemment le cœur du jeune homme et il murmura « Oh non, je ne la verrai plus. Elle n'a pas besoin de me le défendre avec tant d'insistance et de dureté. » Ces paroles remplirent d'aise le vieillard, qui, tout en continuant de se promener d'un air absorbé, épiait les suites de son stratagème. Mais bientôt, la douleur dominant la colère dans le cœur de Louis, son amour se réveilla plus tendre, plus passionné que jamais. Il tâcha de se rappeler les moindres détails de sa dernière entrevue avec Mariette. Il s'interrogea sur les derniers mois de leur relation. Il lui fut impossible de trouver dans ses souvenirs la moindre trace de refroidissement de la part de la jeune fille. Jamais au contraire, elle ne lui avait paru plus aimante, plus dévouée, plus impatiente d'unir son sort au sien, et pourtant, si toutes ses apparences mentaient, Mariette devait être un monstre de dissimulation. Elle qui l'avait toujours cru si pure, si candide. Louis ne pouvait se résoudre à accepter une pareille déception. Impatient de découvrir le mystère qui semblait entourer la conduite étrange de Mariette, incapable d'endurer plus longtemps ses angoisses, il se résolut de se rendre sur le champ chez elle, au risque d'indisposer sa marraine, qui, de même que le père Richard, avait ignoré jusqu'alors l'amour de Louis et de Mariette. Aucune des émotions dont le jeune homme venait d'être tour à tour agité n'avait échappé au vieillard, qui suivait attentivement les effets de sa ruse. Aussi, croyant le moment d'agir opportun, il dit à son fils, après mûre réflexion, « Louis, j'ai pensé qu'il serait bon que demain matin, de très bonne heure, nous partissions pour Dreux, car si nous ne prévenons pas l'arrivée de Ramon, il sera ici après-demain, ainsi que nous en sommes convenus. »« Mon père, cela, mon ami, reprit le vieillard en attachant un regard pénétrant sur son fils, cela ne t'engagera nullement. » Et si tu dois résister au vœu le plus cher de ma vie, je te demande seulement, comme satisfaction dernière, de passer quelques jours auprès de Ramon et de sa fille. Tu seras ensuite libre d'agir comme tu le voudras. » Mais voyant Louis prendre son chapeau et s'apprêter à sortir, le père Richard s'écria « Que fais-tu? Où vas-tu?
Je me sens un peu mal de tête, mon père. Je vais faire un tour dehors.
Je t'en prie, mon ami, dit le vieillard avec une inquiétude croissante. Ne sors pas. Tu as l'air abattu, consterné. Depuis la lecture de cette lettre, tu m'alarmes.
Moi, mon père,
vous vous trompez. Je n'ai rien. Cette lettre est fort insignifiante, je vous assure. J'ai un peu de migraine, voilà tout. Je reviens dans l'instant.
Et Louis sortit brusquement.
Au moment où il passait devant la loge du portier, celui-ci l'appela et lui dit d'un air mystérieux
« Monsieur Louis, je vous avais recommandé d'entrer à la loge parce que j'ai quelque chose à vous remettre à vous seul. Entrez donc. »«
Qu'y a-t-il ? » demanda Louis en entrant dans la loge.
« Voici une carte qu'un monsieur décoré m'a remise tantôt pour vous. Il est descendu d'un superbe cabriolet et il a dit que c'était très pressé. »
Louis prit la carte, s'approcha d'une lampe et lut
« Le commandant de la Mirandière, 17 rue du Mont-Blanc, attendra demain matin chez lui M. Louis Richard pour une communication très intéressante et qui ne souffre pas de retard. »
« Le commandant de la Mirandière, je ne connais pas ce nom, » dit Louis en examinant la carte. Puis, en la retournant machinalement, il aperçut sur l'envers ces autres mots écrits au crayon. « Mariette Moreau, chez Mme Lacombe, rue des Prêtres Saint-Germain, l'Auxerrois. » En effet, monsieur de la Mirandière, ayant noté sur le revers de l'une de ses cartes de visite, afin de ne pas les oublier, l'adresse et le nom de Mariette et de sa marraine, avait, sans y songer, écrit sur cette même carte, laissée chez lui, la demande entrevue qu'il sollicitait de lui. Le jeune homme, dans une surprise et une perplexité croissante, cherchait à pénétrer quel rapport pouvait exister entre Mariette et cet étranger dont il recevait la carte. Après un moment de silence, il dit au portier « Le monsieur qui a laissé cette carte n'a rien dit pour moi ?»«
Si, monsieur Louis, il m'a recommandé de ne vous remettre sa carte que lorsque votre père ne serait pas là. »
« Cela est étrange, » pensa le jeune homme.
« À telle enseigne, monsieur Louis, » reprit le portier, « qu'il m'a donné 40 sous pour boire, afin d'être sûr que sa commission serait bien faite. »
« Et quel homme est-ce, jeune ou vieux ?»
C'est ma foi, un très bel homme, monsieur Louis, un très bel homme décoré, moustache et favori noir comme de l'encre, et mis comme un prince, sans compter son superbe cabriolet.
Louis sortit la tête perdue. Ce nouvel incident redoublait ses angoisses. À force de rechercher le motif de la brusque rupture de Mariette, il ressentit bientôt la morsure aiguë de la jalousie. Une fois sous cette impression, les soupçons les plus insensés, les craintes les plus chimériques prirent à ses yeux l'apparence de la réalité. Il en vint à se demander si l'étranger dont il avait reçu la carte n'était pas un rival. Quel rapport, en effet, Mariette et sa tante pouvaient-elles avoir, dans leur misère, avec un homme jeune, riche et beau? Dans sa lettre, Mariette suppliait Louis de ne pas chercher à la voir. Ce rapprochement, disait-elle, pouvant compromettre son bonheur et celui de sa marraine. Louis connaissait la misérable position des deux femmes. Il avait maintes fois reçu des confidences de la jeune fille sur le caractère chagrin et atrabilaire de Madame Lacombe. Une horrible pensée lui traversait l'esprit. Peut-être Mariette, autant par misère que par l'obsession de sa marraine, avait écouté les brillantes propositions de l'homme dont il venait de recevoir la carte. Mais dans ce cas, quel pouvait être le but de l'entrevue que lui demandait cet homme ? La tête de Louis se perdait à pénétrer ce mystère. Une fois lancé dans la voie vertigineuse de la jalousie, les amoureux se laissent presque toujours entraîner de préférence aux idées les plus extravagantes. Il en fut ainsi de Louis. En se supposant trahi pour un rival, il trouvait la clé de ce qu'il y avait d'inexplicable dans la lettre et dans la conduite de Mariette. Il s'obstina donc à croire à une infidélité en attendant le moment de son entretien avec le commandant de la Mirandière, dont il comptait exiger une explication et des éclaircissements. Dans l'état d'angoisse et de douloureuse excitation où il se trouvait, Louis abandonna sa première résolution et ne se rendit pas chez Mariette. Vers minuit, il revint chez son père. Celui-ci, rassuré par la sombre physionomie de Louis, et certain qu'il n'avait pu revoir la jeune fille et reconnaître ainsi l'erreur dont tous deux étaient victimes, proposa de nouveau à son fils de partir pour Dreux le lendemain matin. Louis répondit qu'il désirait réfléchir sur cette grave démarche et se jeta désespéré sur son lit. La nuit ne fut pour ce malheureux qu'une longue et cruelle insomnie,
Au point du jour, devançant le réveil du vieillard dont il voulait éviter les questions, il sortit, et après avoir attendu sur le boulevard dans une anxiété mortelle l'heure de son entrevue avec le commandant de la Mirandière, il se rendit enfin chez ce personnage.